Bonjour, en ce 25 septembre, c'est la fête de Saint-François Jacquard. Je vous donne en quelques instants ce qu'il a fait d'extraordinaire. C'est un missionnaire des missions étrangères de Paris dont je vous ai parlé plusieurs fois, qui est né juste au tournant du siècle, c'est-à-dire le 6 septembre 1799. Dans le diocèse d'Annecy, dans le sud de la France, et puis il est donc entré aux missions étrangères, il a été ordonné prêtre très jeune, à 23 ans. Il est parti pour ce qu'on appelait la Cochinchine, l'Indochine, et alors il a été nommé provicaire pour les provinces du Nord. Et puis, la même année, il a été choisi comme coadjuteur de l'évêque, mais il n'a jamais pu se rendre auprès de son évêque pour recevoir cette ordination épiscopale, car il a été arrêté. Il a été arrêté de nouveau, il avait déjà été arrêté avant. Il a été condamné à mort pour la troisième fois, étranglé près de Cantry. Le 21 septembre 1838, à l'âge seulement de 39 ans, mais on célèbre sa fête le 25 septembre. C'est une vie magnifique que je vous raconterai. Une autre année, il y a trop de saints aujourd'hui. C'est aussi la fête de quelqu'un que j'aime beaucoup, Nicolas de Flux, dont j'ai lu la vie il y a bien des années, car la fille de l'ancien président de Suisse, qui était devenue catholique après une discussion d'environ une heure avec moi, chose étrange, elle s'est convertie sur le champ. Eh bien, Nicolas de Flux est un très grand saint suisse, sinon le plus grand saint suisse. Et c'était un homme absolument étonnant, n'est-ce pas? Il a vécu il y a très très longtemps. Il est mort en 1487, le jour anniversaire de sa naissance, très âgé. Mais il faudrait qu'un jour je vous raconte tout ça. Enfin, il y a bien d'autres saints aujourd'hui. Je ne sais combien il y en a. Il y a le bienheureux Hermann Contract, un moine de Reichenau qui pourrait être le patron des handicapés. Il avait un corps tout contracté. C'est pour ça qu'on l'appelait Hermann Contract. Téperclu, il est mort en 1054. Et puis, c'est aussi la fête du patron des jardiniers, Saint Phocas, chez les Libanais. Mais je préfère vous parler du Père Pio, dont ça a été samedi l'anniversaire du décès. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. En 1949... La Patrie, journal du dimanche que j'ai conservé, ça se vendait 10 cents, imaginez. Le plus fort tirage des journaux français dominicaux d'Amérique, disait-on à l'époque. Publié le dimanche 10 juillet 1949. Et en première page, en des lettres d'au moins 2 pouces de hauteur, c'est écrit « Les miracles d'un capucin stigmatisé ». J'ai vu la passion du Christ. C'est écrit par Majoric Barry, licencié en droit canon. Il ajoute en gros caractère aussi « copie vivante de Jésus-Christ ». Il y a des photos du Père Pio. Et cet article, qui était raisonnablement long dans le journal, m'avait complètement émerveillé. Ça m'avait encore plus émerveillé parce que je prenais le bateau pour l'Europe pour entrer dans un monastère et m'exiler pour toujours. Quelques mois plus tard, ça c'était le 10 juillet que j'ai lu ça, je partais au mois d'octobre. Alors, je me suis dit, si j'ai la chance de me rendre jusque dans le sud de l'Italie, eh bien, j'irai voir le Père Pio. Et ça s'est réalisé. Je ne suis pas entré dans un monastère avant de me rendre à Rome, finalement. Et le Père Pio, capucin, vivait à peu près, un peu au nord de Naples. C'est dans les Pouilles, ça vous dit quelque chose peut-être. C'est au bord de l'Adriatique, pas loin de l'Adriatique, à la mer qui est à droite de l'Italie. Donc, c'est un peu dans le sud de l'Italie. Allez, quand on va là, bien, c'est vraiment la foule du sud de l'Italie. J'étais donc à Rome et je me demandais comment me rendre là. Il fallait traverser la péninsule. J'ai pris un petit train très, très long. Je suis arrivé tard le soir dans une ville voisine d'où vivait le père Pio, à Foggia, où il y a un évêque. Je m'inspirais d'ailleurs du texte qu'a écrit l'évêque de Foggia, Monseigneur Paul Carta, Paolo Carta, archevêque de Sassari, en Sardaigne, et qui a été évêque de Foggia. Foggia, c'est F-O-2-G-I-A. Quand je suis arrivé dans cette ville tard le soir, où il devait bien être 10h, 10h30, ces petites villes de province sont comme mortes. Tout le monde dort. Il n'y a rien. Il n'y a pas de lumière. Il n'y avait même pas d'éclairage dans les rues. C'était sombre. C'était terrible. Mais heureusement, il y avait un taxi à la gare qui attendait le train. Je me suis empressé de le prendre et je me suis fié à la bonté de ce chauffeur qui, heureusement, était très honnête et m'a conduit vers un petit hôtel, mais il n'y avait pas de place. Un autre hôtel, il n'y avait pas de place. Alors finalement, on m'a conseillé d'aller loger avec les gueux, les plus malheureux de la ville de Foggia et des environs. C'était un immense dortoir où logeaient tous ces gens qui grognaient, qui étaient pauvres et sales, mais dans des lits qui étaient heureusement bien entretenus, par des laïcs extrêmement dévoués et très bons. Et alors je suis entré, j'ai vu qu'on grognait un peu autour de moi parce que ça a réveillé des gens. Je me suis étendu dans un lit, demandant qu'on me réveille à 3 heures de la nuit. Ça me donnait environ 4 heures de sommeil, à peine. Et en effet, à 3 heures, on m'a réveillé. Je me suis empressé de m'habiller, de me sauver. J'avais 24 ans. Et j'étais un peu dans l'inquiétude. Et dans l'angoisse, j'ai regardé si on n'avait pas fouillé dans mes bagages. Mais dans mon empressement, j'ai oublié mon passeport et mon argent sous mon oreiller. Et en arrivant au car qui partait pour San Giovanni Rotondo pour amener des pèlerins à la messe, j'ai été obligé de supplier le chauffeur du car. Je vous en prie, attendez-moi, je reviens dans 3-4 minutes. Et on a eu la gentillesse de m'attendre. Je suis couru vers l'hôtel. Je suis monté dans le dortoir et j'ai fouillé sous l'oreiller, j'ai tout retrouvé. Ouf, j'avoue que c'était un des moments les plus difficiles de mon voyage dans le sud de l'Italie. Car tout perdre dans un endroit comme ça, je ne me demande comment je me serais débrouillé à cette époque, en 1950. Et alors le car s'est aventuré dans la nuit, dans un pays montagneux un peu, pour aboutir à ce petit village dans une petite plaine qui est San Giovanni Rotondo, où il y avait le couvent de Notre-Dame des Grâces, le couvent des Capucins, quelques Capucins, et cet homme qui attirait les foules de toutes les parties de la terre. Le père Pio était stigmatisé, c'est-à-dire qu'il portait dans son corps les traces de la passion du Christ. Depuis des années et des années. Il les a eus durant 50 ans jusqu'à sa mort en 1968, le 23 septembre. C'est-à-dire que quelques heures avant sa mort, par un miracle étrange, les traces des stigmates se sont complètement et instantanément cicatrisées. Il n'en est plus rien resté. Les médecins n'ont jamais pu expliquer comment ces traces ont pu disparaître. Eux, qui par tous les moyens avaient essayé de le soigner, de le guérir avec des pommades ou de l'iode et quantité d'autres médicaments pour essayer de guérir ces plaies, jamais elles ne se sont guéries, jamais elles ne sont devenues autre chose que ce qu'elles étaient. Le Padre Pio est né en 1847 à Pietrelcina. Ça, c'est dans la province de ce qu'on appelle en français Bénévent, Benevento. C'est dans le sud, donc de l'Italie. C'est la hauteur, justement, d'à peu près San Giovanni Rotondo. Donc, il n'a pas vraiment voyagé. Il a toujours vécu dans la même région. Il est entré dans l'ordre des Capucins en 1903. Il avait donc environ 16 ans. Il est frappé assez rapidement d'une maladie plutôt mystérieuse et plutôt pénible qui dure presque 7 ans, de 1909 à 1916. Et ce mal est déclaré incurable. Ça contraint, sa force, ses supérieurs, à le renvoyer à plusieurs reprises à Pietrelcina, dans sa famille, dans l'espoir que sa mère puisse le soigner et que l'air du pays, qui est un... du pays, comme on dit en Italie, n'est-ce pas, l'air de la région, puisse l'aider. Alors, il est mobilisé, finalement, pour le service militaire durant la guerre, en 1917. Il écrit de Naples, « Tout mon corps est un corps pathologique. La seule nourriture que retient mon estomac sont les saintes espèces. » C'est-à-dire, pour ceux qui auraient de la misère à comprendre ce que ça veut dire, les saintes espèces, car je sais que les jeunes ne connaissent pas tous ces termes-là. Hein. Ça veut dire que la seule chose que son estomac pouvait retenir, c'était l'Eucharistie, la communion, l'hostie qu'il recevait à la messe. Et les médecins militaires l'ont congédié, finalement, en disant, en voyant donc ce gars à la maison mourir en paix. Mais au contraire, il a continué à vivre, et d'autres maladies travaillaient son existence. Ainsi, on peut rappeler qu'il a été délivré quand il est arrivé à San Giovanni Rotondo, lorsqu'il arriva dans ce village, là où était le couvent des Capucins, la statuette de Notre-Dame de Fatima portée du Portugal pour le pèlerinage en hélicoptère à travers toute l'Italie. Ça rappelle un peu la Dolce Vita. Vous savez, au début du film, on voit un hélicoptère avec Marcello Mastroianni. Il transporte une grande statue du Christ. On dirait qu'en Italie, on aime avec des hélicoptères transporter des statues et organiser même des pèlerinages. Quelle étrange coutume, hein? Alors donc, au moment où l'hélicoptère s'éloignait, le père Pio s'est lamenté. « Notre-Dame, ma maman, tu es entré en Italie et je suis tombé malade. Et maintenant, tu t'en vas et tu me laisses encore malade. » Il avait des prières très naïves et très simples. C'était un homme du terroir, quoi. Et les médecins avaient diagnostiqué une tumeur à la plèvre. Et à ce moment, il ressentit comme un frisson dans les os. Mais comme une force mystérieuse dans le corps. Il a dit à ses confrères, « Hé, je suis guéri. » Alors, on doit rappeler que la maladie l'a frappé juste au moment où le couvent de Notre-Dame-des-Grâces a été couronné, la Vierge de Notre-Dame-des-Grâces a été couronnée solennellement. Et c'est à ce moment-là. C'est tout de même étonnant. L'archevêque de Manfredonia, Monseigneur Cesarano, a dit à l'évêque de Foggia, souvent le père Pio, dans les heures nocturnes, a une fièvre très élevée, qui pourtant disparut, on ne sait pas pourquoi, elle disparaît tout à coup. Et ça lui permet de continuer tranquillement son activité. Étrange maladie. L'évêque de Foggia a appris ensuite que la fièvre atteignait même 48 degrés et demi centigrades, ce qui est énorme, hein? C'est 10 degrés au-dessus d'un certain état de malaise. Ça faisait d'ailleurs éclater certains thermomètres. Comment expliquer ça? Certains médecins pourraient peut-être nous donner des explications. Le père Pio, qui a toujours été un homme de Dieu, ça n'a jamais été un homme farfelu. Ça n'a jamais été non plus un homme de Dieu coincé. Il savait rire, il savait même blaguer. Il savait même faire des colères. Je l'ai vu, moi, faire une terrible colère. Il avait raison. Je l'ai approuvé. Je l'approuvais du fond de mon cœur. C'était un homme normal. Tout à fait normal. Je l'ai connu, parce que vous savez que pour se confesser à lui, il fallait attendre 4 ou 5 jours. On s'inscrivait, il confessait 16 heures par jour, mais la foule était tellement immense que ça prenait 4 ou 5 jours. Moi, j'ai attendu 4 jours pour me confesser. Et alors donc, il souffre dans son corps, mais aussi il souffre d'une autre façon qui est exceptionnelle. C'est, je m'excuse de vous parler de ça, mais ce que voulez-vous, les faits sont là, c'est concret, c'est prouvé. Ce sont des vexations diaboliques. Bon, vous direz, au 20e siècle, c'est impensable. Bon, ben d'accord, si vous voulez pas y croire, n'y croyez pas. Mais en tous les cas, demain, des gens ne veulent pas croire à ça. Ils ne veulent pas croire à l'existence du diable. Bon, ils rient. Et peu importe ce qui arrive, ils ne veulent pas y croire. Mais pourtant, l'Évangile, le témoignage des saints, comme le curé d'Ars, au 19e siècle, au début du 19e siècle, en ont fait état. Au 19e siècle aussi, au milieu du siècle, Don Bosco, ce prêtre extraordinaire, Saint Jean Bosco, ont été terriblement tourmentés, n'est-ce pas, par le démon. Ça me gêne de parler de ça, parce qu'on va me prendre pour un vieux schnouk, mais ça ne me dérange pas. Je lis et je vois les preuves et les documents, et j'ai, sur le Père Pio, ma table est couverte de livres sur le Père Pio, je n'ai pas tout apporté. Mais soit dit en passant, celui que je vous recommande le mieux plus, c'est celui qui est paru en 1989 chez Perrin, n'est-ce pas, la librairie académique Perrin à Paris. C'est une librairie plutôt très sérieuse. Ça s'est intitulé, ce gros bouquin de plus de 300 pages, remarquablement bien fait par un historien sérieux, c'est Padre Pio, tout simplement, Le Stigmatisé, par Yves Chiron, C-H-I-R-O-N. Je vous dis qui est Yves Chiron. C'est un jeune. Bon, il a aujourd'hui 35 ans. Il est né en 1960. Il a fait des études d'histoire et de théologie. Il a publié « Gaston de Ranty, une figure spirituelle du XVIIe siècle ». Il a publié « Maurice Barrès, le prince de la jeunesse ». Il a publié « Barrès et la terre ». Et ainsi que « Edmund Burke et la Révolution française ». Il a publié plusieurs autres choses depuis 1989, mais je n'ai pas la liste. C'est le livre que je vous recommande surtout. Les autres qui sont très connus, le plus connu peut-être, c'est celui de Maria Winowska, Le vrai visage de Padre Pio, publié il y a déjà bien des années. Je vous en lirai un extrait tout à l'heure. Le mystère du Padre Pio de Paul Le Sourd, qui était professeur à l'Institut catholique de Paris. C'est lui-même qui me l'avait donné lorsque je suis allé lui rendre visite. Il l'avait écrit avec son protégé, l'abbé Benjamin. Et le premier que j'ai lu il y a très longtemps, publié à la Colombe, j'ai lu ça, j'étais jeune, c'est de Charles Mortimer Carty, un Américain. C'est Padre Pio Le Stigmatisé. Ça s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup vendu. Puis il y a aussi, si on veut, Paroles et anecdotes de Padre Pio de Pietrelcina. On le trouve, je crois, chez les Capucins, dans l'Est de Montréal. C'est un petit livre avec des photos aussi. La plupart ont des photos, hein. Donc, je reviens au Père Pio, qui était attaqué, je vous ai dit, par le démon. Bon. Il l'appelait d'ailleurs sale type, sale zig, c'est comme ça qu'on pourrait traduire en français, parce qu'il parlait un peu le patois de sa région, hein. Parce que quand les démons le tourmentaient, ça le fatiguait, ça fatiguait surtout les autres moines dans le monastère qui entendaient des bruits épouvantables, hein. On entendait pendant la nuit des bruits si forts que s'inspirait la terreur à tous les pères du monastère, hein. Surtout quand il était au couvent Sainte-Anne à Foggia, la ville n'est pas loin de San Giovanni Rotondo. Et le Père Pio a expliqué au supérieur que le démon le tentait de toutes ses forces. Il se déroulait entre eux parfois des batailles, une lutte corps à corps, dont le Père Pio, par la grâce de Dieu, sortait toujours vainqueur dans un bain de sueur. Et il fallait le changer des pieds à la tête. Et la grande souffrance du Père Pio dans son corps innocent, surtout, c'était ces stigmates. Il les a reçus très tôt. Le vendredi, le 20 septembre 1918. Donc, il les a eus jusqu'en 1968. Et si vous faites le calcul, ça veut dire 50 ans exactement. Ils sont disparus quelques heures avant sa mort, vers le 20 septembre, donc, 1968. Ça a duré exactement 50 ans. Le père Pio l'a raconté comment c'était, ça s'est passé. Et je lis le texte du père Pio. J'étais dans le chœur à faire l'action de grâce de la messe. Et je me suis senti peu à peu m'élever à une suavité toujours croissante qui me faisait savourer la prière. Et même plus je priais et plus ce plaisir augmentait. Tout à coup, une grande lumière frappa mes yeux et au milieu de tant de lumière, le Christ blessé m'est apparu. Il ne m'a rien dit. Il est disparu. Quand je suis revenu à moi, je me suis trouvé à terre, blessé. Les mains, les pieds, le cœur saignaient. Il faisait mal au point de me faire perdre toute force pour me lever. Alors à quatre pattes, je me traînais du cœur à la cellule en traversant le long corridor. La cellule, c'est la chambre des moines, je le spécifie pour ceux qui ignoreraient ça. Je continue le texte. Les pères étaient tous hors du couvent. Je me mis au lit et je priais pour revoir Jésus. Puis je rentrai en moi-même. Je regardais attentivement mes plaies et je me suis mis à pleurer en entonnant des hymnes de remerciement et de prière. Il a précisé par la suite qu'ils se trouvaient dans le chœur et sont partis du crucifix, qui était transformé en un grand personnage, des faisceaux de lumière avec des flèches et des flammes qui sont allés blesser son corps aux mains et aux pieds. Son côté avait déjà été blessé le 5 août précédent, soit un mois plus tôt. Le tout était arrivé dans un profond assoupissement, ou si on veut, une extase d'amour divin, tandis qu'il contemplait le Christ en croix qui a tant souffert pour nous et qu'il lui demandait humblement de participer, et c'est là très étonnant, de participer vivement aux douleurs de la crucifixion par amour, en souffrant dans son corps tout ce que Jésus a souffert, au point de devenir un second crucifié par désir d'identification et par amour. Donc, dans le Père Pio, s'est répété le fameux prodige de l'an 684, qui s'est produit 694 ans auparavant, avec François d'Assise, quand François d'Assise, dans son corps, avait reçu les marques du corps du crucifié, de l'Alverne, on s'en souvient, François, est descendu stigmatisé avec les signes de Jésus, du Seigneur. Et là, sur le mont Gargano, sur le Gargan, qui est dédié à Saint-Michel, eh bien, le Père Pio est resté stigmatisé avec les signes du Seigneur. Je n'ai jamais douté pour ma part que ces signes soient d'origine surnaturelle, même si on peut essayer de les interpréter de façon psychiatrique. Car le Père Pio, j'en ai été témoin, je ne suis pas le seul, était un véritable homme de Dieu. Et le mystère de ces stigmates, d'où coulait une tasse de sang par jour, dans un tourment et un martyr indicible, sont les preuves que c'est surnaturel. Il ne mangeait pas suffisamment pour perdre une tasse de sang par jour. Ces marques sont la sublime expression, comme dit l'évêque de Foggia, des rapports du Père Pio avec Jésus crucifié, avec l'Église et avec le monde. Je vous parle de quelque chose d'absolument étrange et étonnant, mais j'en ai été témoin, que voulez-vous, et ça me fait plaisir d'en parler. C'est la vie du père Padre Pio, ou Padre Pio tout simplement, puisque Padre veut dire père, un capucin qui est mort en 1968 après avoir été stigmatisé durant 50 ans. Mais ce n'est pas là le plus intéressant de sa vie. Sa vie, c'était une vie chargée d'amour et de miracles. Et Paul VI n'a pas hésité à reconnaître publiquement et à définir le père Pio. Voilà le représentant, imprimé des stigmates de notre Seigneur, homme de prière et de souffrance. C'était un homme de prière et de souffrance. Quand on pense que saint François d'Assise a porté les stigmates seulement 2 ans, le père Pio lui les a portés 50 ans, exactement 2 jours avant sa mort, a été célébré solennellement le 50e anniversaire des stigmates qu'il portait. Et justement, à ce moment, les stigmates sont disparus. Donc, ça a duré exactement 50 ans. Et dans les premiers mois de 1968, le père Pio avait encore les stigmates, mais à peine expirés, on a constaté qu'ils avaient complètement disparu, sans laisser de traces de cicatrisation, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et Dieu avait donné les stigmates visibles au Padre Pio comme des appels d'attraction, comme des lettres de créance, si vous voulez, de la très grande mission qu'il aurait à accomplir et que je vais vous décrire. Et sa mission terminée, bien le Père Pio n'avait plus besoin de montrer au monde la garantie de Dieu. Et Dieu lui a enlevé ses signes visibles. Le Père Pio avait dit « Acceptez et vivez le christianisme avec la croix ». Ça répugne. Moi, ça m'a longtemps répugné, ces phrases-là. Et je les comprends aujourd'hui. Acceptez et vivez le christianisme avec la croix. Seulement, ainsi, on est de vrais adeptes de Jésus. Chacun de nous doit jusqu'à un certain point, si on peut dire, être crucifié. Alors, ce sera la croix des passions dont certains souffrent et qu'ils ont à contrôler, ou bien des tentations de toutes sortes, que ce soit l'égoïsme, le goût du pouvoir, d'un succès immodéré, etc., qu'il faut vaincre afin de se mettre au service des autres. Ça peut être la croix simplement du devoir de tous les jours, le petit devoir quotidien qui devient pesant et monotone. Ça peut être évidemment aussi la croix de la maladie, de la solitude, de l'incompréhension d'autrui. Ça peut être la croix du sida, la croix de l'homosexualité, la croix des handicaps de toutes sortes, la croix de l'abandon, du désespoir, la croix de la perte de personnes qui nous sont très très chères, la pauvreté, la croix du chômage. Ce sera n'importe quelle autre forme de souffrance physique et morale. Il s'agit toujours de croix à accepter, à embrasser même. Et c'est ça l'attitude du chrétien. Il embrasse sa croix. Il la porte avec amour et par amour de Jésus et de tous ses frères et sœurs. À l'imitation de Jésus et, dirait-on pour aujourd'hui, à l'imitation du Père Pio et avec son intercession auprès de Dieu, la cellule du Père Pio était d'une pauvreté impressionnante. Pas un lit, mais simplement une dure couche. Il passait sur son lit très peu d'heures de repos. Il était tourmenté par une fièvre très élevée. Il se levait vers 2 ou 3 heures du matin et assis pendant attendait l'heure de se rendre à l'église pour la messe, qu'il célébrait à 5 heures et qui durait 1 heure et même davantage. Moi, ces messes ont toujours duré au moins 1 heure et demie, toutes celles auxquelles j'ai assisté. Je vous lis un texte qui décrit très bien ce que j'ai vu. Devant la porte fermée, une foule compacte est aux écoutes. Ceux qui sont plus près renseignent les autres. J'entends le bruit des clés, s'écrie une jeune femme avec un bébé dans les bras. La nouvelle se répand. On entend le bruit des clés. Aussitôt, la vague humaine se rue vers l'église. On est dans le sud de l'Italie. C'est une foule incontrôlable. Beaucoup de femmes portant ces voiles noires, des femmes italiennes du sud. Alors là, les battants de l'église s'ouvrent avec un fort grincement de gonds. J'ai tout vu ça. Et c'est comme une digue qui éclate. Alors abasourdi, bousculé, piétiné, malmené, refoulé, on reste loin en arrière, nous qui venons du Québec. Et tandis que des furies, vraiment, ces femmes-là sont des furies en cheveux qui hurlent, piaillent, s'invectivent et gémissent, vocifèrent et usent de tous les moyens pour passer les premières. Ça fait peur. Elles vocifèrent, elles usent de tous les moyens pour passer les premières. Et c'est un tel charivari que le sacristain, pourtant costaud, a du mal à se faire entendre. Et là, dans la langue de la région, il leur dit « païenne, schnappane, coquine misérable, mascalzoni, attendez, par pitié, êtes-vous donc des chrétiennes ou des bêtes, christiani ou bestiers? Que voulez-vous ?» Le pauvre doit user de la manière forte, et cela ne lui sert pas grand-chose. Et je vous supplie, vous qui m'écoutez, de ne pas vous scandaliser trop vite. Nous sommes dans les Pouilles. Et si on va en Sicile, bien, c'est encore pire. Car les mœurs sont complètement différentes des nôtres. Ça n'a rien à voir. Et quand je suis entré enfin, bousculé, je me suis dit, où sont toutes ces femmes enragées de tout à l'heure? Eh bien, autour de l'hôtel de Saint-François, à droite, on ne voit que des visages épanouis. Elles ont toutes trouvé leur place. Elles prient, leurs lèvres marmonnent des prières. C'est une foule dévote et recueillie qui est là. Et l'objectif atteint, il n'y a plus besoin d'exercer quelque violence que ce soit. Alors chacun et chacune a sa place, sinon méritée, du moins conquise, de haute lutte. Alors plus moyen de bouger, ils sont tous tassés comme des sardines. À genoux ou debout, quelques personnes prévoyantes sont munies de pliants et restent en arrière. Eh bien, nous sommes là durant 2 heures de complète immobilité, irrémédiablement bloquée. L'auteur ici, c'est Maria Winowska qui dit « Je me demande avec terreur ce que font les personnes qui se trouvent mal. » Et non, me dit-on, personne ne se trouve mal. Et je pense que déjà, c'est une sorte de miracle. Cela, puis aussi le silence, c'est extraordinaire le silence. On reste absolument estomaqué. Moi, c'est fini ce temps-là, mais je suis resté chaque matin estomaqué. Croirait-on que durant toute la messe du Padre Pio, qui dure maintenant 1h30, ou 1h45 même, elle a été chronométrée, on entendrait facilement voler une mouche. Qui connaît les manières désinvoltes des Italiens du Sud, devisant jusque sur les marches de l'hôtel? Chez eux, cette familiarité n'est nullement irrespectueuse. Ils sont comme ça. Mais on n'en revient pas. D'une si parfaite retenue. Elle est toute d'ailleurs à leur honneur. C'est un peuple jeune, même quand ils sont âgés. Jeunes et enthousiastes. Ils ont de très fines antennes pour capter le surnaturel. Et si parfois l'expression adéquate leur fait défaut, eh bien le sens catholique ne les trompe d'habitude pas. Et ceux qu'ils canonisent de leur vivant méritent notre attention. Ils aiment leur saint. Sur ce point, l'auteur dit « Je me fie davantage à mes pieuses furies échevelées qu'à des personnes confites en dévotion, et tout à l'heure je suivrai avec intérêt sur leur visage, comme un miroir, les effets de la messe de Padre Pio. » Alors, il s'attarde à la sacristie. Voici ses avant-gardes. Et ça, j'ai vu ça tous les matins. Alors, ce sont les fils spirituels, ce sont des frères converts qui feraient comme une espèce de tunnel, ou si vous voulez, ils foncent dans la foule pour laisser passer le Père Pio dans la masse compacte et vivante autour de l'autel. Maria Winowska dit « Je saisis maintenant seulement le fin fond de l'offensive de tout à l'heure. Il s'agissait de se mettre autant que possible sur le chemin du capucin stigmatisé pour toucher sa bure, pour baiser ses mains, pour lui arracher une bénédiction. Alors on dépose sur l'autel la patène et le calice, trop lourds pour ses pauvres mains transpercées. Là, il y a un remous dans la foule, un brusque allaitement. Il padre, il padre. C'est pas facile de comprendre ces gens-là, hein. J'avoue que quand on vient des pays du Nord, où on a été passablement anglicisé par les gens qui ont conquis notre pays ici, ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On est devenu un peu anglais, réservé, et devant un tel débordement, c'est pas facile. Alors, ils disent, il padre, il padre. Alors, on est chanceux, nous, d'être du Nord un peu plus grand que ces Italiens du Sud qui sont plutôt petits. Alors, on peut voir, c'est commode. Alors là, il y a un prêtre qui fend la foule. Un prêtre comme les autres. Sa chasuble semble vieille et usée. Les manches de l'aube, ça c'est intéressant, elles sont raides et à mi-donnée, puis elles sont longues, elles cachent les mains, afin qu'on ne voit pas les stigmates. Hein? Et parce que tout le monde veut les voir, alors il les cache. Son regard est doux, ça je l'ai bien vu, et absent. Depuis tant d'années, tous les matins, c'est la même scène qui se répète, mais c'est le seul moment dans sa journée où il échappe en quelque sorte à cette foule qui le tient à sa merci. Entièrement aux affaires de Dieu, son Père, il est là pour jouer. Pour jouer une fois de plus, le rôle du Fils, le drame du calvaire, ni plus ni moins, la messe. Ceux qui l'escortent lui ont fait franchir enfin la balustrade. Et ça prend du temps. Hein? J'ai vu, moi, des gens autour, des couples qui essaient de toucher ses vêtements et qui éclatent en sanglots. Et dans un calme absolu, lourd d'émotion, eh bien, Padre Pio commence le confiteor. Un des matins où j'étais là, il n'arrivait pas à passer, précédé par son frère capucin, frère convert. Et il s'était écrié ce que je vous ai dit tout à l'heure, les injures terribles que dit en général le sacristain. Il les avait traités, il avait traité la foule, lui qui peut-être portait les vêtements sacerdotaux, de païens, de gens qui se conduisaient comme des bêtes dans une étable et qui n'avaient pas de respect pour la Sainte Église de Dieu. Et il était très fâché, hein? Pourtant il portait ses ornements, mais il n'arrivait pas à avancer. Il y avait des femmes qui le bloquaient à genoux devant lui, le touchaient et ne se déplaçaient plus. Ses gestes durant sa messe étaient sobres, un peu brusques, sa voix d'un timbre juste, légèrement voilée. À peine au pied de l'autel, son visage se transfigure. Il ne faut pas être très très savant pour deviner que le Padre Pio s'élevait dans un autre monde. Qui pour nous demeure bien opaque, on a de la misère à la messe, à passer outre aux apparences, au monde opaque dans lequel nous baignons constamment, le monde des pseudo-réalités ordinaires. On regarde autour, on écoute les bruits, on regarde des gens, et notre âme ne s'élève absolument pas aux réalités des paroles que l'on prononce. Eh bien, lui, il y entre. Hein? Et on voit là la foule qui est ému devant lui, qui prie vraiment. Parce que dès le premier instant, violemment, on se voit plongé en plein mystère, et comme des aveugles autour de quelqu'un qui voit, enfin, c'est nous les aveugles. Nous sommes en deçà de la réalité, mais lui, il ne l'était pas. C'est le rôle, ça, des mystiques, de nous rappeler que nos yeux sont aveugles, et qu'eux ont des yeux qui voient. Des yeux qui voient autre chose que les apparences et les platitudes qui nous intéressent tellement, qui nous captivent et que nous aimons tellement. Vous qui m'écoutez, qui avez vu ce que j'ai vu, vous avez participé à cette messe du Père Pio. On peut pas y assister, n'est-ce pas, en simple spectateur, hein? Il y a une impression qui s'impose à nous, une violence extrême dès le début, dès qu'il commençait son confiteor, car ça commençait avec des prières en latin, hein? C'était avant le concile. C'était extraordinaire. À San Giovanni Rotondo, on découvrait vraiment que le saint sacrifice de la messe nous entraîne vers des abîmes d'amour et de lumière qui sont à peine entrevus. Dans les annales de l'Église, le père Pio est le premier prêtre stigmatisé. Saint François d'Assise n'était pas prêtre. C'est le premier prêtre stigmatisé. Mais il était prêtre d'abord avant d'être stigmatisé. Et les stigmates, ce n'est qu'une question de détail. Toute sa vie était une vie qui gravitait autour de ces moments où il prêtait à Jésus-Christ sa bouche, ses yeux, ses mains, pour célébrer ce sacrifice admirable qu'est le saint sacrifice de la messe. Vous qui avez le temps, allez-y donc tous les jours. Grand Dieu, ce n'est pas si difficile. Rien n'est plus beau qu'une messe, à moins que vous soyez entraîné par devoir à vous occuper de vos enfants, de votre travail ou d'un grand malade. Mais faites bien attention de ne pas faciliter, de rendre trop facile l'abstention à la messe, si on y a toujours moyen d'y courir. Et le plus indigne des prêtres est égal au père Pio au moment où il prononce les paroles de la consécration. Je le dis pour tous les prêtres qui m'écoutent. Vous êtes à l'égal du père Pio, car c'est le Christ que vous offrez. C'est le Christ qui consacre, c'est le Christ qui offre, c'est le Christ qui se livre dans la communion. Et comme tout prêtre, au moment de la messe, vous êtes des instruments comme le Père Pio. À l'égal du Père Pio, rien ne vous empêche d'être comme lui. Son rôle à lui n'était pas de faire autre chose, ni de faire mieux que d'autres prêtres, mais de mieux nous faire comprendre, de mieux nous faire vivre et de mieux nous faire assimiler l'unique sacrifice de la messe, qui est un sacrifice d'acclamation, de remerciement à Dieu notre Père, un cri d'amour, « Père, nous vous aimons ». C'est ça la messe. Avec Jésus-Christ, nous vous aimons. Avec l'Église entière, nous vous aimons, Père. Dans nos pays catholiques, combien d'âmes sont habituées et ne voient plus rien? Combien de femmes que j'ai vues en Italie, qui ne comprennent rien, récitent leur chapelet en murmurant pendant la messe? Qu'est-ce que ça veut dire, assister à la messe? On se pose la question accessoire. Si je suis arrivé en retard, ai-je satisfait au principe de l'assistance dominicale? Mais quant à savoir ce que c'est, on ne cherche pas à savoir. C'est un cri d'amour, une messe. Et le père Pio nous l'enseignait par toute sa vie. Par toute sa vie qui était chargée de miracles fantastiques. Vous savez qu'il a, par lui, accompli le plus grand miracle de ce siècle, je dirais l'un des plus grands miracles de toute l'histoire de l'Église. Car comme pour donner une confirmation divine au bien fondé de tout ce qu'il avait entrepris, eh bien, les journaux du monde entier, ont révélé à l'époque ce fameux miracle qui est survenu à Anna Gemma di Giorgi, une petite Sicilienne de 7 ans, qui était aveugle de naissance. C'est irrémédiable, elle n'avait pas de pupille. Quand on n'a pas de pupille, c'est irrémédiable, à moins de faire, évidemment, une greffe, j'imagine, d'enlever les yeux et d'en greffer d'autres. Mais ça, à cette époque, c'était impensable. Or, la grand-mère de la petite Anna Gemma di Giorgi a décidé de l'amener à San Giovanni Rotondo sur les conseils d'une parente religieuse qui lui avait dit « Padre Pio est un saint. Ses mains stigmatisées sont pleines de grâce céleste et son regard est toujours tourné vers le ciel pour obtenir de Dieu les grâces que nous demandons par son intercession. » Alors, forte de cette foi simple et confiante, Anna Gemma et sa grand-mère sont parties le 6 juin 1947 pour le couvent où il habitait San Giovanni Rotondo avec l'espoir que la petite, qui n'avait pas encore fait sa première communion, elle était très jeune, pourrait communier de sa main et demander sa guérison. Quand elles arrivèrent au couvent, c'était l'après-midi. Une grande foule de pèlerins se pressait autour du confessionnal du padre. Elles ne purent s'approcher. Elles se résignèrent à attendre le lendemain pour pouvoir lui parler. Et sur l'indication d'une fidèle qui se disait bien informée, elles se sont présentées à la porte de l'église du couvent dès 1 heure du matin. Vous savez qu'il est... Les gens venaient de Suède, d'Australie, de partout. Moi, je les ai vus. Il y a des gens qui se sont installés des États-Unis, de partout, qui ont tout vendu, ont jeté une petite maison dans la vallée là-bas et se sont installés près du Père Pio. C'était extraordinaire. Hein? Alors donc, dès 1 heure du matin, pour être assuré, comme ça, que Gemma, la petite, puisse se confesser ce jour-là et communier. L'église ouvrit enfin ses portes à 4 heures. Gemma et sa grand-mère se sont trouvées placées près de l'autel et elles ont assisté avec ferveur à la messe du Père Pio. Celui-ci est entré ensuite dans son confessionnal. Chose étonnante, il a appelé aussitôt la petite aveugle. Il a confessé cet enfant. Puis, il a touché ses paupières. Et il y a tracé un signe de croix. Comme Jésus faisait, n'est-ce pas, avec un peu de poussière qu'il mêlait à sa salive et qu'il mettait sur les yeux des aveugles. Là, nous sommes près de 2000 ans plus tard. L'après-midi, il y eut un nouveau service liturgique et Padre Pio a distribué la communion à quelques enfants. Et Gemma était parmi eux et elle reçut pour la première fois le corps du Christ et le Père Pio a tracé une nouvelle fois un signe de croix sur les paupières de Gemma et bientôt l'enfant s'aperçut qu'elle avait complètement retrouvé la vie. La guérison fit grand bruit. L'oculiste de Palerme en Sicile, qui avait déclaré la cécité définitive, a examiné cette petite fille à son retour de San Giovanni Rotondo, et il a dû constater à sa grande stupéfaction que, bien que ses yeux fussent toujours sans pupille, je le répète, bien que ses yeux fussent toujours sans pupilles. Vous savez ce que c'est que des pupilles, hein? C'est nécessaire pour voir. Eh bien, l'enfant voyait normalement les objets ou les personnes qui l'environnaient. En octobre, un des plus grands ophtalmologistes italiens, le docteur Caramazza de Pérouse, dans le nord de l'Italie, fut consulté. On lui a présenté la petite Gemma, sans lui dire qu'elle avait retrouvé la vue. Et après un examen médical approfondi, il ne put que conclure que sans pupille, l'enfant ne pourrait jamais voir. Aucune intervention chirurgicale n'était possible, ni aucun traitement. Or, elle voyait des hermins. De telles guérisons pouvaient apparemment rendre inutile la construction d'un hôpital à San Giovanni Rotondo, mais il s'en est construit un fantastique, un hôpital ultramoderne, que les chrétiens, les catholiques de l'endroit, les catholiques du monde entier, à la demande même du Père Pio, construit. Pourquoi soigner médicalement si Padre Pio guérissait miraculeusement? Ben, c'était là un raisonnement simpliste que Padre Pio lui-même a toujours contredit. Combien de fois n'a-t-il pas conseillé à des gens qui venaient le consulter d'aller se faire opérer? Les grâces de guérison, les miracles, ne sont pas là pour se substituer à la médecine, mais sont une réponse à une demande précise pour récompenser un acte de foi, pour témoigner de la bonté de Dieu et aussi servir un plus grand bien encore que la guérison elle-même. Qu'est-ce que ce grand bien qui est plus important que la guérison? C'est rénover l'âme et faire triompher la foi. Je me souviens d'avoir amené ma mère en fauteuil roulant au Cap de la Madeleine. Femme instruite, femme qui était un peu gênée d'aller à ça, elle acceptait bien gentiment de s'y laisser conduire. Et elle est revenue toute rénovée, toute lumineuse. Elle avait rencontré tellement de malades qu'il avait sympathisé avec elle, qu'il l'avait entourée de 1000 soins, de 1000 attentions, de 1000 gentillesses. C'est ça Ce qui compte le plus, Saint, j'allais dire Saint Padre Pio, je m'en excuse, Padre Pio, dans sa direction des âmes, se rapprochait de Saint François de Sales avec le bon sens naturel et surnaturel. Et comme lui, il insistait sur le présent. Il disait, la volonté de Dieu n'est pas une vue utopique, là, qui doit être cherchée comme dans un avenir plus ou moins incertain. Il disait, la volonté de Dieu, elle est ici et maintenant. Il se basait sur Saint Paul qui disait, le Christ aujourd'hui. En somme, il faut être un peu existentialiste quand on est chrétien, si on veut devenir des saints. Les existentialistes nous parlent de l'existence comme étant le moment présent. Seul le moment présent compte et fait ce que nous sommes. Dans un sens, ils ont bien raison. C'est pourquoi Gabriel Marcel, grand existentialiste chrétien, a bien prêché à ce sujet, écrit des choses admirables. Eh bien, nous, chrétiens, nous devons être convaincus de la même réalité. Faut pas s'évader de nos devoirs quotidiens. Faut pas croire trop facilement que nous ferions mieux ailleurs. Ça, c'est très utile, ça, pour résoudre des cas de vocation des gens qui se présentent et qui veulent devenir religieux ou religieuses, pensant qu'en changeant, ils vont devenir meilleurs. Il faut déjà être pas mal bon pour entrer en religion, pour se faire prêtre. Il faut déjà, dans le monde, être capable, au jour le jour, de vivre ce qu'on a à vivre. Et quand on ne voit pas bien quelle est la volonté de Dieu, il faut attendre et prier. Dieu n'est pas pressé. Je dirais, en terminant, qu'il faut avoir une bonne idée de l'obéissance. Padre Pio a souffert le martyr. Il a été trahi. Il a été traité de toutes sortes de choses. Je me souviens quand j'étais à Rome et je m'en allais le voir, beaucoup de gens à Rome me disaient, n'allez pas voir le père Pio, voyons, c'est un fumiste, c'est ceci, c'est cela. J'y suis allé et j'ai vu autre chose que ce qu'il me disait. Et j'ai vu ce grand homme. Si vous voulez vraiment le connaître, eh bien, lisez Padre Pio, le stigmatisé de Yves Chiron, C-H-I-R-O-N, publié en 1989 et paru chez Perrin, P-E-2-R-I-N. J'ai lu ça au mois d'août 93, c'était un ravissement pour moi. C'est tellement merveilleux, il est tout à noter. C'est un des beaux livres que j'ai lus pour nous faire pénétrer dans, à travers le monde merveilleux, pénétrer le monde de l'essentiel, de l'unique nécessaire, la recherche de Dieu, la rencontre de Dieu, l'acceptation de ce que nous sommes, sourire dans la souffrance et accepter que finalement, les richesses que Dieu nous accorde par sa présence et le don qu'il fait de lui-même sont 100 000 fois plus grands que n'importe quelle souffrance que nous pouvons ressentir, il me semble.